Radio Primitive et Galaxy Pop présentent Jurassic Park, le format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés.
Made in USA.
Introducing Kellogg's Just Right Cereal, the perfect harmony between
taste, nutrition,
four wholesome grains, each one crisp and crunchy, with the sun-rich goodness of raisins, nuts, and chopped dates. Taste that's so rich in nutrition, you get 100% of 11 vitamins and minerals. New Kellogg's Just Right, the perfect harmony between taste and nutrition, with fruit or all grain.
Just right. Vous vous souvenez dans l'épisode précédent quand je disais « Voilà pourquoi je finis par me procurer le deuxième album de Tori Amos, Little Earthquakes ». Oui, oui, le deuxième.
On en parle ?
Parlons-en. Après.
It's a happy day.
Et. Sauvée des oubliettes grâce à Internet, Helen Amos va prendre une première décision et...
Jouer à des pains pour changer de vie.
Elle adopte le pseudo qu'on lui connaît, Tori. Tori sort diplômée de la Richard Montgomery High School de Rockville en 1981 et fête ses 18 ans en août. Elle joue dans des bars et des hôtels plusieurs soirs par semaine, est programmée dans quelques festivals et continue l'envoi de maquettes intempestives sans créer les mois tant espérés. Elle commence donc à avoir de sérieux doutes non pas sur sa capacité à vivre de sa musique, ce qu'elle fait dans les bars depuis déjà 4 ans, mais sur la qualité de ses compos, essuyant refus sur refus sous prétexte que le truc de la fille et son piano ça commence à bien faire. Mais en 1983, le destin va frapper à sa porte.
Qu'est-ce que c'est encore ?
C'est le destin d'homme.
J'arrive !
Narada Michael Walden, le musicien multi-instrumentiste et producteur multicasquette de George Benson, Diana Ross ou encore Whitney Houston, prend contact avec Tori et lui propose de l'aider à produire ses morceaux dans son studio. Tori s'envole pour San Francisco fin 83, gonflé comme un soufflé. Mais on sait tous que les soufflés, ben, ça dégonfle. Fraîche comme la rosée et confiante par l'intérêt qu'on lui porte enfin, Tori arrive en studio avec des démos fabriquées dans son home studio à l'aide d'une boîte à rythme, d'un synthé et d'un piano. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Aux États-Unis début 80, la mode vit un tournant. C'est le début des bimbos et ça n'a pas échappé à Narada. Il convainc Tori de se fondre dans la masse et pour la première fois, la chanteuse, alors en pleine remise en question, opine du chef. Il s'empare du matériel de base de Tori et l'emmène dans une toute autre direction, quelque part entre Sister Sledge et Boy George. Il pitch également sa voix afin de la rendre plus féminine. Ils enregistreront une dizaine de chansons aux titres tous plus équivoques les uns que les autres.
Predator, Rubdown, Married Man, Never Satisfied,
Scouts on Fire,
Hot Box.
On peut facilement comprendre que Tori soit sorti épuisé de ses sessions et qu'elle ait fini par dire
« Au revoir ».
Dès que les mots « frotte-moi bébé » sont sortis de ma bouche, ce n'était tout simplement pas aussi mignon que lorsque Mike Myers le fait. C'est à ce moment-là que je suis officiellement devenu une
« péripatéticienne »
audio. Les démos issues de ces sessions n'ont malheureusement, ou fort heureusement, j'hésite, jamais franchi les portes du studio. Narada les a toujours en sa possession, mais a respecté le vœu de Tori qu'elle ne sorte pas sans son consentement. Suite à cette courte mésaventure, Tori repart de là où elle vient, faire ce qu'elle a toujours fait, pour finalement déménager à Los Angeles en 1984, consciente que ce n'est pas en faisant ce qu'elle a toujours fait de là d'où elle vient, qu'elle réussira à aller quelque part un jour.
Mimi.
En l'espace de 3 semaines, elle installe son home studio dans son appartement, fréquente The Place to Be pour comprendre comment fonctionne la scène locale, réunit un groupe de musiciens pour l'accompagner et programme une première date qui ne se passera tout simplement pas comme prévu puisqu'aucun des musiciens n'arrivera à jeun, voire n'arrivera tout court. Elle comprend qu'une fois de plus elle ne pourra compter que sur elle-même et fait la tournée des piano bars pendant une année durant laquelle elle multipliera des petits jobs, dont une pub que vous avez entendue en introduction de cet épisode pour les céréales Just Right de Kellogg's.
Le sachez-vous ?
En 1876, le docteur John Harvey Kellogg, adventiste du 7e jour, se lance dans un combat contre la malbouffe, convaincu que les excès de gras, de sucre, de viande, de caféine et d'alcool sont la cause principale de la débauche et de la luxure. Il fabrique une poudre de perlimpinpin à partir de flocons de maïs et de blé chauffés à très haute température en vue de tester ses mixtures sur ses patients. Son frère Wilkes Kellogg s'empare de l'invention diabolique, y ajoute du sucre et la met sur le marché en 1906. C'est ainsi que tous les bambins du monde ont fini par se gaver à leur insu d'un remède initialement conçu pour les castrer.
Faut savoir qu'à la base, c'était Sarah Jessica Parker, future star de Sex and the City, qui devait jouer dans cette pub pour Kellogg's. Karma. L'année 1985 va être la véritable année du changement. Tori est prête à tout pour se faire remarquer, cartonner et gagner l'approbation du milieu. Elle change de cap, sacrifie le piano et monte un groupe metal pop, enfin moi je qualifie ça de rock FM mais bon. Entourée de Brad Cobb à la basse, Matt Sorum à la batterie avant qu'il ne prenne les baguettes pour les Guns N' Roses et Steve Keaton, guitariste et qui d'ailleurs le restera sur chacun des albums à venir de Tori jusqu'en 99, Wyke and Tori Reid travaillent en studio 3 fois par semaine pour peaufiner des démos.
Free!
une cassette de Why Can't Tori Read, littéralement pourquoi Tori ne peut pas lire, comme ultime pied de nez à la Peabody University, finie entre les mains de Jason Flum de chez Atlantic Records, une division Warner, et c'est cet homme qui va donner sa chance au groupe. Enfin, plus précisément à Tori, puisque c'est elle qui signe le contrat, et même un gros contrat, puisqu'elle leur doit 6 albums, alors que le groupe n'a donné en tout et pour tout qu'un seul concert. Et ce sera d'ailleurs le seul, puisqu'en octobre 86, soit 2 mois après la signature, Brad Cobb lâche la rampe. Et tout va se déliter progressivement. L'enregistrement du disque démarre en mars 87 sous le scalpel aiguisé du producteur Joe Ciccarelli. La manœuvre est la suivante, polir un max l'aspect métal du groupe pour sortir un album pop. Évidemment, dit comme ça a l'air brutal, mais en vérité c'est bien connu, le procédé est bien plus insidieux. Ce dit procédé aura tout de même raison de Matt Sorum, qui quitte le navire à son tour en cours de route, laissant Tori et Brad Cobb seuls à bord, naviguer à vue. Va alors s'engager un turnover de musiciens de studio afin de combler les divers manques. Mais tous ces bâtons dans la rousse ne vont pourtant pas l'empêcher de s'investir à fond dans le projet. Tori, en contrôle freak, reste concentré et investi malgré les concessions et souhaite produire le meilleur album pour démontrer de quoi elle est capable. Après une année et demie à tailler le bijou, il sort de l'usine pour atterrir dans les gondoles des disquaires et là... c'est le drame. La presse assassine le disque dès sa sortie. La critique est dure, la sentence est sévère, et pour cause. Malgré tous les efforts fournis par Tori pour créer une œuvre originale où elle était censée démontrer tout son savoir-faire, elle passe après Madonna, Kate Bush, Roxette, Cyndi Lauper, bref, en queue de comète. Les problèmes liés aux chaises musicales des musiciens de studio se ressentent, la proposition artistique manque de clarté, et pour couronner le tout, le public a du mal à identifier l'artiste qu'ils appellent par défaut Tori Reid.
Acide hyaluronique.
Le tout sublimé par une affreuse pochette magnifiquement laide signée Aaron Rapoport, affichant une Tori grimée en Barbarella version AliExpress. Et ça ne s'arrête pas là. Le premier single, The Big Picture, que nous écouterons en fin d'épisode, bénéficie d'un clip réalisé par Marty Kallner, à qui l'on doit entre autres Blind Man et Crazy d'Aerosmith et Lie to Me de Bon Jovi. Et cette vidéo, compilant tous les clichés du genre, décollement de racines inclus, ne va pas vraiment arranger l'image de l'artiste. Les ventes sont affligeantes, Tori sera moqué et boudé par la profession. Je suis entré dans ce restaurant et j'ai vu une connaissance. Je me suis approché de la table, il faisait semblant de ne pas me connaître, et j'ai senti ses ricanements parce que mes cheveux étaient gonflés, j'avais mes bottes en plastique qui montaient jusqu'à ma cuisse et ma mini-jupe. Et j'ai compris pour la première fois que j'étais une blague. Quelques amis fidèles dont Joe Ciccarelli l'aideront à passer ce cap douloureux et à reprendre en main son image et sa musique. Little Earthquakes, sorti en 92, est en partie un acte de digestion de ces années à trimer et à faire les mauvais choix, mais la morale de cette histoire, c'est que l'honnêteté artistique paye puisque Little Earthquakes sera certifié 2 fois disque de platine aux USA et disque d'or en Angleterre, au Canada, en Belgique, aux Pays-Bas et en Australie. Belle revanche, non? Malgré tout le mal que j'en ai dit, je ne déteste pas Why Can't Tori Read.
Mais c'est de la merde!
Jean-Pierre, tu exagères. Ce disque est effectivement l'illustration parfaite, mais too much, de ce que les années 80 ont produit de pire. Mais au gré des écoutes, répétez les écoutes. Quelques titres sont vraiment chouettes et méritent le coup d'oreille. Tori s'est d'ailleurs réconciliée avec, comprenez par là qu'elle a cédé à la pression des fans, offrant une réédition remasterisée de l'album en 2017. Il est désormais disponible sur les internets pour les plus curieux d'entre vous.
Last night, caught my boyfriend looking at another slender pair of eyes. Gotta make more money, gotta get the faster than the rest. Knock them off the ladder if they even seem to stand a chance. The big picture, got a big white cloud. The big picture is staring.
Vous venez d'écouter l'épisode 2 de la saison 3 de Jurassic Park. Cet épisode est disponible en replay sur le site off de Radio Primitive et sur toutes les applis courantes de podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, histoire de mettre
des paillettes dans ma vie.
Prenez soin de vous, et à la prochaine.